Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
On termine ce mois d'octobre avec un podcast spécial Octobre Rose où on va parler du cancer du sein et l'intimité. Et il existe des sexologues qui justement reçoivent les patientes et patients qui ont des cancers. Ça s'appelle l'oncosexologie, c'est une branche de la sexologie qui se concentre spécifiquement justement sur les aspects relationnels, affectifs et sexuels des personnes atteintes de cancer. Et pour parler de ce sujet-là, j'ai invité une de mes professeures de sexologie, c'est d'ailleurs marrant pour l'anecdote, Marie Jonet, qui est docteure en psychologie, thérapeute de couple et sexologue, et qui a l'habitude de recevoir de nombreuses patientes et patients qui ont des cancers, et elle les accompagne justement vis-à-vis de leurs questionnements, de leurs demandes, et on va voir dans cet épisode quelles sont les demandes des patientes traversent le cancer du sein, les questionnements qu'elles ont vis-à-vis de l'impact que ça peut avoir sur leur sexualité, mais surtout comment elles peuvent naviguer avec tout ça, comment elles peuvent adapter leurs conditions, la fatigue, la douleur, l'impact corporel, sexuel, comment elles font en fait avec tout ça pour vivre au mieux leur intimité en solo et leur intimité de couple quand elles sont en couple. On ne visibilise pas la sexualité des femmes qui ont des cancers et des cancers du sein, encore moins. Et j'ai trouvé ça très chouette de la part d'Erika Lust, qui est déjà passée sur le podcast. Erika Lust, qui pour Octobre Rose, a voulu visibiliser justement la sexualité, l'intimité, l'érotisme des femmes ayant des cancers du sein. Et donc, c'est un film porno où on voit une actrice qui traverse un cancer du sein avec son partenaire et on les voit dans leur intimité, dans leur sensualité, comment elles se réapproprient son corps, comment ils vivent leur relation d'intimité, de couple. Et franchement, c'était la première fois que je voyais ça. Donc, je tenais à vous le mettre dans les notes de l'épisode. Je vous mettrai aussi des épisodes pour communiquer avec votre partenaire, pour pouvoir parler de ces sujets-là, de la sexualité. Et encore plus, si vous vivez un cancer ou si vous avez traversé un cancer, ça va vous demander de vous adapter, ça va vous demander une flexibilité qui n'est pas toujours évidente, qui des fois demande d'être accompagnée. Mais si vous pouvez au moins avoir ces ressources-là, ces informations-là, pour vous sentir un petit peu plus rassurée dans ce parcours-là, ben je trouve que c'est l'intention en tout cas de cet épisode et je serais très contente si vous ressortez de cet épisode un peu plus rassurée et outillée. Je vous souhaite une bonne écoute. Marie, bienvenue sur le podcast Camille parle sexe.
Merci Camille.
Et ben, je suis ravie de te recevoir parce que ben, tu as été ma professeure, il faut le dire aussi. J'ai eu droit à avoir un de tes cours quand j'étudiais la sexo à Louvain-la-Neuve en Belgique. Donc c'est toujours intimidant aussi du coup d'échanger comme ça avec les professeurs, mais c'est chouette aussi. Maintenant c'est plutôt voilà, collègue, consoeur, donc ça fait plaisir. Ce sujet onco-sexo, déjà peut-être aussi d'expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire l'onco-sexologie, mais surtout pourquoi ce sujet du cancer du sein te parle et pourquoi tu as choisi cette thématique.
Alors c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de travailler en oncologie, dans un service d'oncologie adulte pendant plusieurs années, et j'ai pu suivre en fait des couples et des patients et patientes qui devaient traverser justement ce parcours de maladie tout simplement. Et il y avait vraiment toujours cette question de la sexualité qui pouvait revenir comme ça de manière, je dirais, un peu discrète, un petit peu timide. Et je me suis vraiment fait, pas un point d'honneur, mais j'ai vraiment eu envie justement de pouvoir un peu visibiliser ces questions-là. Ils sont quand même assez bien mises de côté, en fait, hein, pendant les parcours de maladie des patientes. Alors qu'il peut y avoir beaucoup de questions et beaucoup de bouleversements aussi en matière d'intimité.
Oui, tu l'as dit, il y a beaucoup de questions, il y a des interrogations. On sait que des fois dans le parcours, justement, en onco, on peut voir des psys. Est-ce que les patientes voient des sexologues? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? Ou des fois, c'est même pas su?
Alors, dans beaucoup de services d'oncologie, tu as des psychologues qui sont spécialisés en oncologie et qui vont accompagner les patients et les patientes en parcours de soins. Maintenant, pour les questions vraiment de sexo, c'est vrai que ça, c'est moins systématisé. Il n'y a pas forcément de sexologue dans tous les services d'oncologie ou dans toutes les structures hospitalières, même si je trouve que ça tend quand même à devenir plus fréquent et on est quand même plus soucieux de développer ces services également. Mais c'est moins systématique, en tout cas, que le soutien psychologique.
Et on pourrait dire à ce moment-là, quand on a un diagnostic de cancer, quand on passe par des traitements, peut-être que la sexualité, en fait, c'est peut-être le dernier truc auquel on va penser. Pourquoi on irait voir un ou une sexologue? Quelles sont les demandes des patients, patientes, alors patientes, et j'imagine qu'il y a des couples aussi hein, qui viennent. Tu pourras nous le dire. Quelles sont les demandes des patientes?
Alors, c'est vrai que pendant la période des traitements, c'est une période où la sexualité peut être mise un peu entre parenthèses, en tout cas, par le personnel soignant parfois, parce qu'il y a vraiment ce focus hein, sur la survie, sur les soins, sur les aspects médicaux, et c'est tout à fait compréhensible. Du côté des couples et des patients, on peut effectivement mettre un petit peu parfois cette question de l'intimité de côté. Mais souvent, malgré tout, il y a des questions. Beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes aussi, beaucoup de besoins d'avoir des explications sur certaines choses ou de normaliser en fait certaines réactions, que ce soit de la personne qui vraiment est dans le parcours de soins, chimio, etc., ou que ce soit parfois de la part du conjoint ou de la conjointe qui est aussi là. Mais c'est souvent beaucoup, je trouve, si on doit vraiment, en tant que professionnel, mettre le focus sur quelque chose pendant cette période de soins, c'est beaucoup d'éducation, en fait, et d'information et rassurer aussi les patientes sur toute une série de choses qui peuvent effectivement se modifier avec les traitements ou la maladie, mais qui sont, entre guillemets, classiques par rapport à un parcours onco.
Et justement, venons-en à l'impact en fait du traitement, que ce soit, et peut-être il y a une différence justement de conséquences selon le traitement choisi, comment la chimio, la radiothérapie ou les traitements hormonaux peuvent affecter la fonction sexuelle. Hein. Nous, en tant que sexologue, on parle de fonction sexuelle. Comment ça peut impacter?
Alors, ça a des conséquences. Hein. Donc, ça, c'est vrai que ça a des conséquences, et moi, j'aime bien distinguer les conséquences plus directes des traitements et les conséquences plus indirectes des traitements. Donc, les conséquences directes, ben, c'est vrai que ce n'est pas si évident parce que les parcours de soins peuvent être soit des parcours de chimiothérapie, soit de radiothérapie, soit d'hormonothérapie. Il y a parfois aussi des interventions chirurgicales. Et parfois, il y a de tout, en fait. Hein. Donc, on va combiner une chimio avec une radiothérapie et puis peut-être une hormonothérapie dans la suite. Donc, on est souvent, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, on est vraiment dans des traitements qui sont quand même des traitements potentiellement de longue durée, donc avec des conséquences sur la sexualité. Ils vont durer un petit peu. On n'est pas sur des traitements de 2-3 semaines. Souvent, ça prend quand même un peu plus de temps. Et donc, en termes de conséquences directes, c'est vrai que les chimios, chez les femmes, si on doit faire un focus vraiment sur les parcours des personnes qui souffrent d'un cancer du sein, ça va produire en fait une ménopause artificielle. Donc, il va vraiment y avoir un arrêt des cycles menstruels qui va se produire. Il va y avoir potentiellement aussi une baisse de la libido qui peut être observée. Il y a toute une série de conséquences pas très agréables, pas très très chouettes, comme en fait, il y a beaucoup d'irritations des muqueuses qui peuvent arriver avec la chimiothérapie. Et donc, qui dit irritation des muqueuses, de toutes les muqueuses, de la bouche, etc., mais aussi évidemment au niveau du vagin, des zones génitales, on a ce type d'inconfort. Il peut y avoir un déséquilibre aussi dans la flore. Donc, il y a plein de petites conséquences comme ça pour la sexualité qui peuvent être assez inconfortable, on va dire. Pour les rayons, même chose, hein, ça va aussi venir impacter la sexualité, puisqu'on va vraiment venir toucher potentiellement certaines... alors, c'est plus au niveau du sein, mais alors là, effectivement, c'est plus l'image du corps aussi qui peut être entravée. Donc, il y a effectivement des conséquences très directes, vraiment sur la fonction sexuelle, et les patientes ne sont pas toujours bien informées, en fait, de ces conséquences-là. Ils sont assez classiques et pour lesquels parfois on peut aussi adapter en fait certaines choses auxquelles bon, il n'y a pas non plus de traitement massif, mais ben voilà, si on sait que il y a de la sécheresse vaginale, on s'est informé simplement, on peut utiliser.
C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Pour toi, il faudrait du coup donner là ce que tu viens de nous dire. Il faudrait que les professionnels puissent informer déjà sur les répercussions, les conséquences que ça peut avoir et du coup. Qu'elle peut mettre en place, comme là, je t'ai coupé, pardon, s'il y a des sécheresses vaginales, de dire, ça peut arriver, si ça arrive, il y a des lubrifiants, ces choses-là.
Oui, tout à fait. Alors, en principe, quand les patientes commencent un parcours de chimio, notamment, elles reçoivent vraiment ce qu'on appelle chez nous l'éducation aux patients. Donc, c'est ce qui va vraiment informer de manière globale les patientes sur l'ensemble des conséquences des traitements, mais de manière très, très large. Et moi, ce que j'avais pu un peu observer sur le terrain, c'est que pour beaucoup de personnel soignant, informer sur les aspects comme les nausées, la fatigue, ce qui est lié à l'alimentation, c'est des choses qui sont assez faciles et qu'on va faire classiquement. Mais par contre, informer sur les effets secondaires des traitements qui sont vraiment directement liés à la sexualité, c'est beaucoup moins évident pour beaucoup de soignants, en fait. Et donc, tous et toutes ne le font pas. Systématiquement, parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec ces questions-là, parce qu'ils ont parfois peur d'ouvrir la porte à des questions auxquelles ils ont peur de ne pas avoir de réponse, parce que parfois ils ont des croyances aussi sur les patients qui vont en face d'eux, comme quoi, j'ai une patiente de 65 ans en face de moi, je ne vais pas lui parler de sexualité à son âge, j'imagine. Donc c'est parfois des croyances un peu... construites en fait par ce qu'on nous transmet dans la société, mais qui ne sont pas du tout en accord avec la réalité. Et donc on a parfois dans cette éducation, cette information aux patients par rapport au traitement, mais on zappe en fait un peu la sexualité pour plein de raisons. Ce serait à mon avis effectivement une étape déjà fameusement importante.
Super importante. Il y a donc les conséquences directes, donc ménopause artificielle, baisse de libido, qui peut arriver aussi, comme tu disais, l'image corporelle, le fait peut-être qu'il y a la fatigue et donc on ne pense pas forcément à la sexualité, ça se comprend. Une baisse d'estime de soi, peut-être parce que on perd ses cheveux, on perd son sein, on passe par toutes des épreuves, quoi, vraiment, qui viennent chambouler l'être. Et tu parlais de nausées, de fatigue, où ça c'est un peu plus... facile pour les professionnels de parler de ça. Quelles sont les conséquences indirectes?
Et justement, moi, ce que je mets souvent dans les conséquences indirectes, c'est l'aspect de fatigue, justement, de nausée. Tout ce qui est image du corps, hyper important aussi, évidemment. Dans beaucoup de traitements chimio pour le cancer du sein, une des conséquences, c'est l'alopécie, donc la perte de cheveux que tu évoquais. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut pouvoir accompagner chez les patientes. Il y a toujours beaucoup de craintes, beaucoup d'appréhension hein, autour de cette étape, j'ai envie de dire, du traitement qui arrive assez tôt dans le parcours de chimio en général. Cette image du corps, ce qui est particulier, c'est qu'elle change très vite, en fait. Hein, le fait de perdre ses cheveux, ça peut arriver assez vite. On a aussi, avec les nausées, une perte de poids qui peut aussi arriver. Donc, il y a potentiellement aussi une perte du sein. Donc, il y a vraiment une modification de l'image du corps qui est assez, assez massive et assez, assez brutale. Ce n'est pas quelque chose qu'on a le temps d'appréhender de manière progressive, hein. Comme on peut appréhender son propre vieillissement, ben on se voit un petit peu bouger dans la glace tous les matins. Ici, c'est quelque chose qui est très, voilà, très abrupt, très brutal.
Très violent, oui, c'est ce que souvent les patientes décrivent, c'est que bah, j'ai même pas eu le temps, j'ai appris que j'ai eu un cancer du sein, soudainement, quelques semaines, quelques mois après, bah, peut-être qu'on m'enlève le sein, et puis j'ai tout ça qui arrive, j'ai pas eu le temps d'intégrer, quoi. C'est des fois, c'est d'une violence aussi.
Oui, c'est très, très violent, c'est très fatigant aussi, c'est beaucoup de, et c'est ce que je vois aussi souvent dans les conséquences indirectes, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, à la limite parfois presque de un peu de trauma, hein. On est presque parfois dans des symptômes un peu de l'ordre du syndrome de stress post-traumatique, parce que tu as ce truc très, très brutal auquel on s'attendait souvent pas vraiment. Et donc, il y a plein de manifestations presque psychologiques. Il peut y avoir des affects un peu dépressifs aussi qui sont présents. Donc, il y a, je dirais, au niveau de l'humeur et des émotions, c'est un peu les montagnes russes souvent. Et ça, c'est vrai qu'en termes aussi, ben, même pratiquement de libido, de désir, de sexualité, ça peut impacter aussi finalement ce domaine de vie.
Et pour les personnes qui sont ton couple, est-ce que tu les reçois justement pour donner toutes ces informations-là à deux? Est-ce que tu invites les deux membres du couple à être là? Est-ce que en réalité, c'est plutôt souvent les patientes? Comment ça se passe?
C'est vrai que quand je reçois ou je vois des personnes qui sont plutôt en traitement, c'est un petit peu au cas par cas. Parfois, il y a vraiment une volonté de la patiente de pouvoir poser des questions, mais de manière individuelle par rapport à ben, justement des choses un peu plus privées ou plus personnelles sur justement le choix du lubrifiant, qu'est-ce qui peut aider, ou des questions vraiment plus d'éducation, d'information, se rassurer sur toute une série de choses. Est-ce que c'est normal que j'ai moins de libido? Est-ce que c'est normal qu'il se passe telle et telle chose? Est-ce que je dois m'inquiéter? Et alors, je peux proposer effectivement dans la suite d'inviter entre guillemets le ou la conjointe, parce qu'il y a parfois aussi certaines choses qui sont pas, qui sont en fait strictement liées finalement à ce traitement, à ses conséquences, et qui sont pas forcément bien comprises, bien appréhendées, bien évaluées, bien reçues par l'autre, par le conjoint ou la conjointe. Et lui aussi, finalement, ou elle aussi, aura besoin d'avoir un peu ces informations pour rassurer, en disant, c'est normal, peut-être que pendant quelques semaines, votre sexualité va être un peu différente, peut-être que vous allez la trouver un petit peu ralentie, mais il y a toute une série de choses qui, physiologiquement, vont aussi changer et qui vont nécessiter de s'adapter. Donc, c'est vrai que la porte d'entrée ne sera pas forcément systématiquement de recevoir les deux personnes. Mais c'est toujours chouette d'ouvrir la porte à pouvoir accueillir l'autre à un moment donné, parce que je pense que clairement, on revient finalement sur des demandes qu'on a aussi dans les consultations où je qualifierais de convenance. C'est cet écart de désir aussi qui peut se marquer aussi à un moment donné dans le couple, quoi. Donc c'est important de pouvoir, en tout cas, laisser la possibilité de voir les personnes en couple.
Tellement de voir les personnes en couple. Et donc, on parlait là, on va se centrer plus, pas forcément comment gérer, alors bien que ça peut avoir un impact, mais gérer la fatigue, les douleurs, mais ça a un impact quand même sur la sexualité. Mais là, comment, et là, peut-être même juste, avant de parler de sexualité duo, sexualité solo, réappropriation de son corps, peut-être même de cette nouvelle poitrine, hein, qui est une reconstruction ou pas, comment on s'adapte vis-à-vis de son intimité quand on est en traitement, quand le traitement est passé, mais que ça a quand même... voilà, tu parlais de conséquences. Les conséquences, j'ai l'impression, elles ne sont pas là que pendant le traitement, mais même après.
Tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est vrai que moi, finalement, dans ma manière vraiment d'appréhender le parcours de soins des personnes, je trouve qu'il y a vraiment des temps un peu particuliers, avec chaque fois des demandes et des manières aussi nous d'accompagner qui seront différentes. Je le disais, pendant les traitements, c'est beaucoup de sexo-éducation, informer, rassurer, normaliser. Et c'est vrai que vraiment, moi, j'ai eu l'impression que, et j'ai encore l'impression maintenant, que vraiment, le travail plus sexothérapeutique, finalement, allait souvent plus se jouer une fois que les patientes sortent des traitements, avec vraiment un temps d'eux, en fait, finalement, dans le parcours, où, comment dire, le gros du traitement est derrière, ou en tout cas, voire même parfois terminé, il y a une volonté de reprendre un peu le fil rouge de sa vie et de renouer avec une série de choses. Une volonté aussi parfois du conjoint, de la conjointe, hein, de reprendre, de renouer un peu avec l'intimité. Et c'est vrai que c'est souvent plus, je dirais, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'en tant que professionnelle, on va vraiment travailler l'accompagnement sexo avec les patientes. Il paraît logique, hein, quand tu es dans le parcours chimio, rayon, en fait, ça, c'est très intense, hein, comme parcours physiquement. Il faut savoir que quand on fait un traitement par radiothérapie, il faut aller tous les jours à l'hôpital pour faire sa dose de rayon. Donc, en fait, on est tout le temps occupé. Il y a très peu de place pour ça, en fait, aussi.
Il n'y a pas la place, il n'y a pas l'espace, ce n'est pas la priorité, finalement. Et donc, ça se comprend que c'est plutôt après, une fois que c'est derrière. Déjà, il faut intégrer tout ce qui s'est passé parce que, comme tu disais, tout va vite. Et puis là, maintenant que j'ai un peu plus d'espace, de temps, waouh, comment je fais ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment comment je reprends un peu le fil de ma vie, comment j'ai envie aussi de l'envisager, en sachant que souvent, et c'est là où il y a probablement un petit piège, pour beaucoup de patientes qui commencent des traitements courts, du cancer du sein, il y a vraiment cette croyance qui est en partie vraie, hein, qu'une fois qu'on a fini les rayons, la chirurgie, la chimio, et voilà, ça va aller, ce sera fini, on sabre le champagne et on passe à autre chose. Mais comme tu le dis, hein, il y a encore parfois l'hormonothérapie qui est proposée aussi à ces patientes-là, dans tous les cas de cancer qui sont hormonosensibles. Et cette hormonothérapie, elle peut être prise pendant plusieurs années, hein, après la fin d'un traitement, donc c'est quand même, c'est pas rien, hein, donc ça peut durer. Et ça a aussi de nouveau des conséquences, alors peut-être pas en intensité aussi importante sur le fonctionnement sexuel que peut l'avoir la chimio, par exemple, mais il y a aussi effectivement une baisse potentielle de la libido de nouveau qui peut apparaître, il peut y avoir toute une série de perturbations hormonale, de nouveau un petit peu comparable à ce qu'on peut observer pendant la ménopause. Ça veut dire que même quand on a fini, on va dire, le gros de ces traitements, bah, il y a potentiellement quand même encore cette hormonothérapie qui peut durer avec un impact potentiellement sur le fonctionnement, sur la fonction sexuelle. Ça, c'est vraiment une première chose quand même à retenir. Et puis souvent aussi, quand on sort des traitements, bah, il y a quand même encore beaucoup de fatigue. Hein. Il faut vraiment le temps de récupérer. Il y a beaucoup de fatigue, il y a parfois encore un peu d'anxiété, hein, qui va traîner par là avec la peur que ça revienne, hein, parce que je pense que ça, c'est probablement une grande crainte quand on arrive en fin de traitement. C'est cette épée de Damoclès, hein, beaucoup de patients vont décrire avoir au-dessus de leur tête, donc il peut encore y avoir un peu d'anxiété. Donc voilà, il y a des choses qui restent malgré tout et qui sont peut-être moins favorables, on va dire, au fonctionnement sexuel, et donc que nous on doit avoir en tête, en tout cas, parce que c'est pas des choses que l'entourage va forcément comment dire, appréhender comme ça spontanément, un style de fatigue qui s'accroche un petit peu, l'hormonothérapie, beaucoup vont se dire mais ben, c'est fini, on passe à autre chose. Bon, c'est pas aussi évident que ça, déjà ça c'est une première chose.
Il y a plus d'empathie, des fois, peut-être pendant le traitement, parce que bah, c'est visible, c'est là. Et puis après, sentiment, bah, ça y est, c'est fini, tout va bien, on retourne à la vie normale. Sauf que ce n'est pas la normalité.
Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Il y a parfois ce côté, bon, allez, maintenant, on ferme le tiroir, et on reprend le cours de sa vie. Et c'est rarement aussi simple que ça. Mais c'est vrai que c'est plus à ce moment-là qu'il va y avoir, je trouve, vraiment l'accompagnement du couple, de la sexualité, avec des demandes parfois un peu comment dire, ça peut être assez divers, c'est-à-dire qu'il y a parfois des demandes vraiment de patientes qui ont souffert dans leur fonction sexuelle, dans leur sexualité, du traitement et qui ont un petit peu du mal à retrouver le fil vraiment de leur sensualité, leur érotisme, et donc on va les accompagner par rapport à ça, avec aussi un travail d'accompagnement du couple hein, pour travailler aussi l'écart du désir, etc. Et puis parfois, j'ai déjà eu aussi des patientes où c'était un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que dans le couple, elles sortaient de ce traitement avec un espèce d'élan vital et un désir de vivre énorme.
C'est ce que j'allais dire, il n'y en a pas aussi qui, en ayant fait face à la mort, se disent « mais là, en fait, déclic, j'ai envie d'être libre, quoi, j'ai envie de vivre ». Et du coup, un élan comme tu décris, ça arrive.
Oui, tout à fait. Oui, vraiment un espèce de c'est vraiment ça, une envie de dévorer en fait la vie et de profiter de plein de choses et de profiter même de tout. Et la sexualité en fait partie, avec vraiment vraiment envie, voilà, de vivre, revivre une sexualité très on va dire très dynamique, de reprofiter en couple si elles sont en couple. Et donc là aussi, parfois, on doit accompagner un peu le couple parce que c'était pas forcément le fonctionnement antérieur, en tout cas au diagnostic. Et donc, on a aussi voilà, des espèces de disharmonies qui vont probablement apparaître dans le couple, mais dans un sens effectivement un peu inverse, où là, c'est justement pas de difficulté pour la patiente à retrouver le désir et à une sexualité épanouie, mais c'est la difficulté pour le conjoint ou la conjointe à s'ajuster en fait à cette nouvelle manière de fonctionner, qui est en fait un peu, je trouve, à l'image finalement aussi de ce qu'on peut parfois avoir chez beaucoup de patients, pas toutes, hein, mais chez un certain nombre, c'est cette envie j'ai vécu, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai vécu voilà, des choses très difficiles et maintenant je veux profiter, quoi. Je veux vivre différemment, je veux vraiment...
Mais ce n'est pas évident pour le ou la partenaire, mais... parce que cette dynamique de couple, et tout dépend aussi le nombre d'années, mais soudainement c'est comme s'il fallait faire différemment. Et puis peut-être qu'il y a eu aussi, on parlait de l'impact sur la sexualité des patientes, mais aussi sur effectivement la sexualité aussi du ou de la partenaire, donc... C'est pas toujours pour dire, ah ben chouette, il n'y a pas de répercussions, tout va bien. On laisse la patiente partir, puis finalement, en fait, non, le couple, ça a une conséquence directe finalement aussi sur le couple, qui n'arrive plus peut-être à se comprendre.
Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi des choses qu'on observe malheureusement, c'est que des couples qui vont faire chier même pendant la phase de traitement, et puis c'est dans l'après, où là, il y a comme si les conjoints prenaient un peu des routes différentes finalement. Avec une patiente qui peut-être veut vivre vraiment différemment et qui veut réenvisager en fait même un autre sens par rapport à sa vie, et un conjoint ou une conjointe qui n'a pas suivi en fait ce cheminement-là ou pas forcément et qui a un peu du mal à prendre le train en marche, on va dire. Donc ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qu'on peut effectivement parfois observer aussi dans les parcours des personnes.
Super, alors là je vais avoir quelques questions pratico-pratiques pour justement là les personnes. Donc pareil, sexualité solo, pour renouer avec cette sensualité, tu vois, tu disais c'est un accompagnement possible, pour renouer avec la sensualité, peut-être même pour les personnes qui ont du mal à accepter cette nouvelle poitrine, hein, qu'il y ait eu reconstruction ou pas, est-ce qu'il y a des outils que tu aimes partager aux patientes qui peuvent les aider?
Il y a vraiment, par rapport, je trouve, à l'accompagnement vraiment spécifique suite à une mastectomie, hein, donc une ablation du sein, avec vraiment cette question de l'image du corps, etc. C'est quelque chose vraiment qui se travaille en soi. Hein, donc, il y a vraiment le fait d'apprivoiser cette nouvelle partie du corps, en sachant, parfois les parcours peuvent quand même être un petit peu différents, puisque parfois, il peut y avoir, tu sais, des reconstructions vraiment... simultané, hein, donc à la fois on fait dans la même opération,
on enlève
l'ablation et on reconstruit directement. Et puis dans toute une série d'autres cas, c'est pas possible ou la patiente ne le souhaite pas et on doit alors simplement entre guillemets intégrer cette ablation du sein. Mais cela dit, même s'il y a une reconstruction, c'est quand même une nouvelle image à intégrer parce que c'est pas la même image que celle qu'on avait laissée avant. Et donc, par rapport à ça, moi, je prévois vraiment une espèce de... Enfin, je propose en tout cas vraiment quelque chose de très progressif. C'est un peu l'idée finalement de s'exposer petit à petit à cette nouvelle image du corps, d'abord en individuel, donc d'abord toi par rapport à soi-même, parce qu'après il y a toute la question aussi de montrer ce corps à l'autre. Si évident, hein, ça change parfois des dynamiques familiales. Moi je me souviens comme ça de patientes qui me disaient qu'avant, ben, dans leur famille ou dans leur couple, ben, la salle de bain, ils ne la changeraient pas forcément parce que si quelqu'un ou si son mari débarquait, ce n'était pas grave. Il passait, il venait chercher quelque chose et puis il repartait. Depuis l'opération, elle fermait la salle de bain à clé. Ce n'était plus quelque chose qui était envisageable. Donc, ça change quand même pas mal de choses. Donc, d'abord, simplement, soit par rapport à soi, s'exposer vraiment progressivement avec, voilà, un miroir pour commencer, si c'est trop compliqué, d'absorber.
Avec un miroir, de regarder, de toucher.
De toute façon, souvent, comme il faut masser en fait, la cicatrice hein, pour l'assouplir.
Oui, les éternels, oui.
Ça permet de faire aussi cet exercice de masser, d'essayer de sentir, de s'approprier cette partie de son corps, de s'exposer effectivement avec un miroir, mais toujours avec beaucoup de... Il n'y a pas d'urgence, donc avec beaucoup de, on va dire, de gentillesse, en tout cas, envers soi. Moi, je propose aussi toujours un petit exercice après avoir regardé la cicatrice, ben, de me noter comment on s'est senti, c'était quoi l'émotion, à quelle intensité était cette émotion, 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10. Donc, vraiment de observer un petit peu comment on se sent quand on s'expose à ça. Donc c'est vraiment...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Au-delà de s'exposer, c'est vraiment appréhender les émotions que ça va créer aussi, de s'exposer à ça. Et dans un deuxième temps, à un moment donné... Vivre, en tout cas, c'est un peu faire la même chose, cette même exposition un peu progressive, mais avec le conjoint ou la conjointe, pour qui aussi ça peut être compliqué d'appréhender aussi cette partie du corps.
Savoir où toucher, comment toucher, est-ce que ça va faire mal, pas mal, ou même une cicatrice, hein, on n'est pas tous et toutes à l'aise avec ça. Même, voilà, de se dire, bah oui, c'est quand même d'avoir eu cette habitude de ce corps-là, de cette forme-là, et de se dire, ah oui, c'est plus pareil, et c'est aussi OK de ressentir ça.
Oui, ça c'est important de pouvoir aussi le dire aux conjoints ou aux conjointes, c'est qu'ils ont aussi le droit de ressentir des émotions par rapport à cette partie du corps, même si ce n'est pas eux qui ont été touchés directement, parce qu'il y a vraiment beaucoup le souhait d'être compréhensif par rapport à l'autre. On ne s'autorise pas forcément à exprimer ou pouvoir dire qu'on a aussi du mal, que c'est aussi compliqué, que ça nous rentre.
Oui, on ne veut pas blesser l'autre alors qu'on sait que c'est déjà dur pour elle, mais... C'est aussi important parce qu'elle sait que ça a changé et de dire maintenant tout est comme avant, ça n'aide pas non plus. Donc c'est aussi de reconnaître ce qui est.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait vrai. C'est que finalement, c'est plus comme ça finalement dans la dynamique conjugale que ce qu'on appelle le coping dyadique va pouvoir se mettre en place. Donc le fait de faire face ensemble hein, à ce qui s'est passé. L'idée, c'est d'arriver à se mettre ensemble dans l'appréhension de ce nouveau corps, simplement, effectivement. Et puis,
pour réapprivoiser hein, ce corps, ça passe par toute une adaptation visuelle, toucher, donc le sensoriel aussi. Et puis ensuite, bah, de faire le même exercice à deux. Là, par rapport à la masturbation, si, pareil, une personne souhaite se masturber plutôt là par pénétration vaginale? Est-ce que aussi, comme tu parlais de sécheresse, est-ce que le vagin peut être atrophié aussi, justement, de par les traitements? Et si oui, comment les personnes peuvent se, pareil, encore une fois, réappréhender cette zone, le vagin, les sensations? Peut-être que ça tire, peut-être que ça brûle, peut-être qu'il y a un sentiment que c'est étroit. Comment naviguer avec tout ça?
Mais tu as tout à fait raison, notamment... bon, alors, c'est moins le cas... En tout cas, au niveau chimio et tout ce qui sera hormonothérapie, c'est plus les aspects de sécheresse qui sont présents. Tu peux avoir, mais c'est plus dans le cas de tout ce qui est cancer gynécologique où il va y avoir des traitements par rayon. Mais là, directement au niveau des zones génitales, là, ça va venir potentiellement, en tout cas, effectivement, diminuer fortement la flexibilité des tissus. Et donc, souvent, dans ce cas-là, on va notamment préconiser un suivi kiné. Pour des massages, parce que tu as vraiment, à la fois, il y a le périnée en général qui en prend un coup aussi, le tonus du périnée, chez les hommes comme chez les femmes. D'ailleurs, quand c'est cancer de la prostate, chez les hommes, c'est la même chose. Et chez les femmes, c'est vrai que dans les cancers gynéco traités par radiothérapie, il peut y avoir vraiment ces tissus qui sont un peu atrophiés, qui sont beaucoup plus érogiques, beaucoup moins souples, et ça va potentiellement créer de la douleur. Là, clairement. Et donc souvent, ça, c'est vrai que le duo, on va dire, d'accompagnement qu'on va pouvoir créer avec une kiné spécialisée en périnéologie, c'est essentiel quoi, dans ce cas-là, parce qu'il y a vraiment ces aspects de massage et puis aussi d'assouplissement des tissus et même tout ce qui est exercice pour finalement retonifier le périnée.
Et oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Il y a peut-être d'autres professionnels aux alentours, justement sur ce milieu de la sexo, qui peuvent être super aidants, comme les kinés du périnée, qui là vont venir assouplir les tissus, tonifier s'il y a besoin de retonifier, ce qui est important pour la santé de manière générale et ce qui aide aussi dans le bien-être sexuel aussi de pouvoir ressentir du plaisir et non pas des douleurs, comme tu dis. C'est trop tonique, qu'il y a des sécheresses, que ça tire, c'est pas confortable quoi.
Non, et je pense que par rapport à ça, mais comme pour le tout ce qui est ablation du sein. En fait, un des facteurs aussi quand même à prendre en compte, c'est le temps en fait. Le temps parce que en fait, c'est un travail de deuil un peu aussi de ce corps qu'on connaissait très bien, tel qu'il fonctionnait avant. Alors c'est d'autant plus vrai quand il y a des chirurgies évidemment. Mais même s'il n'y a pas de chirurgie ou même une chirurgie partielle, malgré tout ce corps il a un petit peu changé, il n'est plus tout à fait le même. Et donc il y a ce travail de deuil aussi simplement et de l'acceptation, et j'ai l'impression que ça aussi, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il n'y a pas d'urgence à prendre. Enfin, prendre le temps. Bon. Le temps, et c'est la même chose. Effectivement, si on a eu on a des douleurs, parce qu'effectivement, la zone génitale a été irradiée, parce qu'on est dans le cas d'un cancer gynéco, ben, là, on prend le temps, surtout, première chose, avant toute chose. Et une fois qu'on a le vagin gynéco, on prend quand même de toute façon
le temps. Le temps pour déjà se réapproprier avec ce que tu disais. Là, par rapport à la masturbation, bah, pareil, les lubrifiants, d'aller en douceur, de se faire aider aussi avec les kinés, justement, vis-à-vis de ça. Ça, c'est déjà des bons tips qui peuvent aider. Est-ce que, justement, ça, c'est une question qui revenait à partir de quel moment on peut reprendre une vie sexuelle après des traitements, voire même pendant les traitements?
Alors, en théorie, oui, j'allais te le dire, en théorie, la vie sexuelle ne doit pas forcément s'arrêter parce qu'il y a des traitements. Donc, la vie sexuelle peut continuer tout le temps. Il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Il n'y a pas de
contre-indication.
Simplement, il n'y a pas de contre-indication. Après, ça va peut-être dépendre quand même, malgré tout, certains traitements plus spécifiques. Mais dans le cas du cancer du sein, les sous-traitements chimio, la plupart du temps, en tout cas, on peut maintenir une sexualité, mais simplement, parfois, il faut l'envisager un peu différemment. Il faut peut-être un peu l'adapter aussi, cette sexualité. Il faut peut-être sortir du cadre habituel de ce qu'on connaissait. Ce sera peut-être aussi moins fréquent, sur une note peut-être un peu plus sensuelle ou plus liée à la tendresse. Mais en soi, en tout cas, l'intimité, dans le sens assez large du terme, peut être maintenue vraiment tout au long des traitements.
C'est bien le dire.
Pas de raison. Et ça, je pense que justement, le fait de pouvoir, même si on n'a pas de rapport sexuel classique avec pénétration, on peut être dans des gestes d'intimité, de sexualité, des caresses. Ça fait du bien, je dirais aussi en termes de santé mentale, dans des périodes où on a parfois besoin de se sentir proche de l'autre, très soutenu. Donc voilà, je pense que le premier step, en tout cas, c'est toujours effectivement simplement de s'assurer de ça auprès de son médecin. Si on a un doute, lui demander, oser, en tout cas,
de dire ça. Et même oser demander, du coup, ce serait même au médecin d'anticiper ça et de pouvoir le dire, simplement dire c'est OK, ou alors s'il y a des contre-indications, hein, mais c'est OK, sachez que c'est OK, vous pouvez continuer votre vie intime, que ce soit avec pénétration, sans pénétration, si ça vous donne envie, si ça vous fait du bien, vous avez mon feu vert.
Oui, ce serait bien, effectivement. Mais là de nouveau, je pense que c'est pas si évident que ça pour les médecins. Je me souviens avoir lu comme ça un mémoire ou une étude qui traitait justement de la question de la sexualité, la manière dont les médecins, gynéco, etc. en parlaient. Et je pense que dans l'étude, ce qui m'avait marqué, c'est que les médecins, gynéco, sont tout à fait d'accord pour dire que la sexualité, c'est important, c'est quelque chose d'important dans la vie de leurs patients. Mais par contre, très peu osent l'aborder dans leurs consultations. Donc, ils en parlent pas toujours, mais c'est pas parce qu'ils trouvent que c'est pas important. C'est ce que j'avais repris de cette étude-là. Mais parce que, de nouveau, peut-être qu'ils se sentent moins compétents, moins armés, ils n'osent pas, ils ont des croyances peut-être aussi par rapport à la sexualité. Or que finalement, c'est un domaine de vie, comme le monde professionnel, la vie sociale, comme tous les autres domaines qu'on peut aborder en consultation. Malheureusement, celui-là, effectivement, souvent, il passe un peu à la trappe.
Du coup, de ne pas hésiter, encore une fois, en tant que patiente, sinon de poser la question ou de l'aborder juste pour être réassurée, comme tu dis, ça passe beaucoup par ça. Tu parlais que c'est aussi beaucoup de réadaptation à deux, la sexualité à deux. Tu dis aussi, voilà, parce que c'est des questions qui reviennent, hein, comment on peut maintenir une connexion intime. Bah, tu l'as un peu dit déjà, pas de raison que ça s'arrête. Après, évidemment, s'il n'y a pas d'envie qu'il y ait des prolongations, que ça continue, c'est aussi un choix. Mais si, voilà, quand il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez continuer si vous avez envie. De réadaptation, même peut-être en termes de position, j'imagine que tout dépend aussi des douleurs corporelles, de la chirurgie, s'il y a des cicatrices, etc. Il y a peut-être des positions qui sont peut-être plus appropriées que d'autres. Alors, tu me diras, ça dépend d'une personne à une autre.
Oui, probablement. Ça dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend d'un traitement à l'autre, de la chirurgie. Ça dépend du type de cancer. Donc, c'est assez... j'ai pas vraiment de conseils en termes de position parce que je pense que ça peut vraiment changer en fonction du traitement ou même du type de cancer qu'on va pouvoir avoir. Mais je pense que par contre, c'est vrai que oser parler à deux de ces positions, peut-être oser que ce soit avant ou pendant les moments d'intimité, oser dire ça me fait mal, il faudrait qu'on change, c'est pas confortable, et peut-être le conjoint, la conjointe, questionner hein, comment tu te sens, est-ce que là c'est confortable pour toi, est-ce que tu veux qu'on change, n'hésite pas. Parce que c'est vrai, ce que tu dis est vrai, surtout si on est face à des couples qui fonctionnaient ensemble depuis longtemps. Quand on fonctionne ensemble depuis longtemps, il y a un peu, souvent on observe des espèces de scénarios un peu classiques en intimité, avec deux, trois positions un peu privilégiées, on va dire, et on sait qu'elles fonctionnent, on sait qu'elles sont efficaces, et voilà, les scénarios sont un petit peu toujours les mêmes. Mais peut-être qu'effectivement, il va falloir changer ces scénarios à un moment donné, parce que ce sera plus confortable ou ce sera ou même ce sera un peu gênant, hein, peut-être pour effectivement l'image du corps de nouveau. Si dans un premier temps on n'ose pas trop s'exposer au regard de l'autre, il y a peut-être certaines positions qui vont être moins évidentes en fait et moins confortables. Et donc il va falloir de la flexibilité en fait et de l'adaptation. Bon.
Beaucoup d'adaptation, de communication. On reviendra sur ça. Mais effectivement, de s'adapter, de se dire là, de quoi j'ai besoin, de poser la question à la partenaire. Est-ce qu'un coussin, on rajoute du lubrifiant? Est-ce que peut-être aujourd'hui, il n'y a pas de pénétration? Peut-être c'est avec des sextoys ou peut-être même le corps, hein, comme tu dis, ou quand c'est difficile. Est-ce que si c'est difficile pour moi de me mettre nue, est-ce qu'il n'y a peut-être pas une lingerie où je pourrais me sentir bien, qui cache pour le moment cette partie-là et qui me met en valeur et donc je me sens bien? Ça, je trouve que des fois, ça aide à donner un boost de confiance en elle. Et la communication. Là, c'est vrai, c'est aussi quand même le cœur. Il n'y a pas de flexibilité d'adaptation dans le couple. Si le couple ne sait pas communiquer, ne parle pas de ça ou que c'est assez tabou. Et comme tu disais, souvent, il y a des positions qui reviennent, qui sont privilégiées. Puis là, ça vient un petit peu tout secouer. Et donc, c'est aussi peut-être le moment quand ça coince, là, comme ça, au niveau du couple, de venir consulter les sexologues pour être accompagné, pouvoir briser la glace et être accompagné. Mais les personnes, comment elles peuvent aborder justement ce sujet de la sexualité ensemble, dans un couple?
Alors là, j'aurais envie de te répondre finalement, comme dans tous les couples qui ne parlent pas de sexualité en général. Donc, c'est vrai que pour ça, finalement, le cadre de la maladie, c'est pas vraiment différent. C'est qu'en fait, justement, à un moment donné, le fait qu'il y ait...
Force à en parler.
Ça force effectivement à en parler, alors que parfois pour d'autres couples, ben, en fait, il n'y a pas d'événement qui vient un peu bousculer les choses. Ici, c'est le cas et je pense que tu as raison. Clairement, les aspects de communication sont essentiels. Et c'est surtout, quand on dit communication, concrètement, c'est parler de sexualité. En fait, c'est surtout qui est essentiel ici et c'est souvent ça qui est compliqué. C'est vrai que je trouve que parfois, se faire accompagner dans cette démarche-là, c'est quand même très intéressant. En tout cas, les premières séances après, c'est presque un apprentissage, moi, je trouve, d'oser te parler de sexualité. Et souvent, ben, quand on accompagne les couples qui est finalement maladie ou pas maladie, ben, on leur donne un peu les clés, les premières séances. Puis après, l'apprentissage finalement se fait et il fonctionne très bien sans nous. Mais je pense oser, en tout cas, demander de l'aide à un moment donné. C'est une première chose, oser se faire accompagner, même pour quelques séances, simplement parce que ben voilà, c'est vrai que ça vient bousculer tout et ça nous oblige à parler effectivement de sexualité, de ce qui est confortable, pas confortable, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. On ne peut plus fonctionner effectivement avec les mêmes scénarios qu'avant et donc il faut repenser ça et si on n'en parle pas, ça paraît quand même assez compliqué. Maintenant, donner des clés voilà, qui pourraient aider... je dirais peut-être commencer de nouveau. J'en reviens à cette notion de progressivité. Finalement, c'est commencer vraiment aussi par se rapprocher du corps de l'autre, mais de nouveau, peut-être par des massages, par des choses un peu plus érotiques, sensuelles que strictement sexuelles, avec chaque fois vraiment des questions ouvertes en fait à l'autre, et vraiment chacun des conjoints puisse s'exprimer en mode question simplement parfois.
Ok, donc par exemple, voilà, là je commence à toucher le haut du corps, est-ce que ça te va comme ça? C'est ça les questions ouvertes?
Oui, comment tu te sens, est-ce que tu veux que je continue? Enfin, c'est pas tout à fait ouvert puisque effectivement ce sont des réponses oui ou non, mais c'est voilà, simplement un peu, alors pas tout le temps non plus, hein, mais pouvoir pendant les moments d'intimité à interroger le ressenti en fait de l'autre. Simplement, au-delà des douleurs potentielles, voilà, comment tu te sens, est-ce qu'on continue, est-ce que ça te plaît, est-ce que tu as envie qu'on change, est-ce que tu veux un peu me caresser moi, peut-être commencer en tout cas par ça.
Okay, donc, interroger le ressenti, je sais qu'il y a des personnes pour qui ça va être au moment même, ça va être tétanisant et donc ça va être aussi, comme tu dis déjà, de demander de l'aide pour avoir cette habitude-là de communiquer. Et puis de commencer peut-être aussi, c'est-à-dire en dehors de la sexualité, même d'aborder ces sujets-là. Comme ça, il y a peut-être moins d'enjeux sur le moment même. Il y a des personnes pour qui ça va être très facile de le faire au moment même et d'autres personnes pour qui ça va les tétaniser parce qu'elles vont se dire, mais en fait, du coup, il va croire que j'ai jamais aimé ça ou que là, je vais pas aimer, etc. Donc, il y a des enjeux qui se jouent aussi des fois au moment même, quoi, je trouve.
Oui, c'est vrai que... Tout le monde ne sera peut-être pas à l'aise. Nouveau, dans la notion de progressivité, on peut envisager d'abord de parler de sexualité en dehors de la sexualité. Hein. C'est un peu ça que
oui,
en fait, c'est dire. En tout cas, parler de sexualité en dehors des moments intimes.
Parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas cette habitude-là, donc qui puissent créer déjà cette habitude, peut-être même déjà en dehors de la sexualité. Enfin, moi, je le verrais comme ça aussi, peut-être déjà en dehors de la sexualité. Comme ça, on en parle, on peut avoir des réflexions. Et puis après, OK, on l'inclut dans la sexualité. Mais ça va dépendre des couples, évidemment.
Ça dépend des couples, mais je trouve aussi que souvent, les couples qui communiquent mal, même en termes d'émotions, souvent ont beaucoup de mal aussi en termes de sexualité. Donc souvent, le travail initial, je trouve, au-delà même de la sexualité, c'est communiquer sur ce qu'on ressent, en fait. Et j'ai l'impression que finalement, moi, je commence vraiment d'emblée plutôt par ça, de manière presque générale, c'est-à-dire pas uniquement en lien avec la sexualité, mais communiquer sur ce qu'on ressent. Quand tu me dis ça, ça me fait ça, je me sens comme ceci, j'ai telle émotion. Quand tu as fait ça, je me suis sentie comme ça, ça m'a blessée, ça m'a rendue triste, j'ai culpabilisé. Donc, c'est vrai que je me rends compte que souvent, je commence même par un travail sur la communication des émotions, du ressenti. Et en fait, une fois que tu ouvres la porte à ça, tu tombes très vite sur le ressenti pendant la sexualité. Et donc, ça se met en place naturellement, effectivement. Et c'est ce travail de communication, parce que souvent, les couples, je trouve... beaucoup me disent souvent « Oui, on communique bien, on trouve que ça va la communication. » Et puis en fait, on se rend compte qui communique bien, sur qui doit sortir les poubelles le jeudi matin et qui va chercher les enfants à l'école.
Surtout ces couples-là, ceux qui disent « On communique bien » et dire « Ah ouais, je vois tout de suite que non. »
Donc en fait, ils ont une très, très bonne gestion du quotidien, on va dire. Donc très, très organisés, ils communiquent bien sur ces aspects-là, mais souvent...
Ils communiquent beaucoup, en fait, ils parlent beaucoup.
Oui,
pas forcément qu'ils communiquent bien. En fait, oui, ils le traduisent par « on communique bien », mais en fait, c'est qu'ils parlent beaucoup. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils communiquent bien.
Oui, tout à fait, mais c'est vraiment ça, effectivement. Et donc, finalement, je trouve qu'on retombe sur apprendre à communiquer sur son ressenti, parce que quand on parle de la communication dans les couples, c'est finalement ça, c'est « qu'est-ce que je ressens ?» et éviter de rester sur des messages de surface et aller creuser un peu ce qui se passe en dessous. Et dès que tu commences à te connecter à ce que tu ressens et à pouvoir le transmettre à l'autre, c'est plus facile de tout doucement aller transposer ça dans l'intimité aussi, quand tu as pu ouvrir un peu la porte à cet apprentissage-là. Parce que je pense vraiment que c'est un apprentissage.
Je suis d'accord, c'est un apprentissage, c'est pas évident. Et donc, comme tout apprentissage, ça s'apprend avec des experts aussi. Et que c'est avec la répétition que ces personnes-là vont être de plus en plus aussi confortables à parler de ces sujets-là, à parler des ressentis et ensuite des ressentis intimes. Pour terminer, je voulais que tu nous casses un petit peu des croyances justement sur la sexualité quand on a un cancer ou quand on a traversé un cancer, des choses que tu peux entendre et que tu as envie de casser quoi, aujourd'hui.
Bonne question. Mais déjà, alors c'est plus général, c'est pas vraiment sur le cancer en tant que tel, c'est sur l'âge des patients. Déjà, se dire que c'est pas parce qu'une patiente ou un patient a plus de 60 ou 65 ans que finalement la maladie va pas impacter sa sexualité, qu'il faut pas en parler, que c'est pas grave, parce que à son âge, il y a plus de sexualité. Mais pas forcément, hein, donc on le sait, hein, la sexualité n'a pas d'âge, il n'y a pas de raison. Hein. Mais c'est parfois des freins, je trouve, que j'ai observé aussi bien du côté du personnel soignant, mais même aussi des patients, patientes qui n'osaient pas forcément poser de questions à leur médecin parce qu'elles se disaient, enfin, j'ai 65 ans, je n'ose pas lui poser cette question, il va croire que je suis encore très active.
C'est pas légitime.
Donc, il y a déjà cette croyance. Voilà. Donc, ça, c'est une croyance, une première croyance. Sinon, pour le reste, quelle croyance je
devrais réfléchir au même temps.
La maladie, t'en as une,
ouais, parce que celle-là, elle m'était venue, puisque tu l'avais évoquée aussi pendant notre échange. Et que même du côté des patientes, de se dire, ce sera la fin de ma sexualité, et puis ça me va bien, mais parce qu'il n'y a pas cet imaginaire de ça pourrait être autre chose aussi, parce qu'on ne légitime pas le fait qu'à n'importe quel âge, on puisse avoir une sexualité. Et ça peut aussi très bien d'arrêter à ce moment-là aussi. Hein. Il n'y a pas de nécessité de continuer si on ne le souhaite pas. Je réfléchis aux croyances. Que des fois, en fait, il y a cette croyance aussi que même pendant le traitement, il n'y a pas de sexualité. Et que des fois, même des personnes qui peuvent être hospitalisées aussi sur plus longtemps, il y a des fois des infirmières qui vont dire j'ai ouvert la porte et puis j'ai surpris un couple qui se retrouvait, il y avait des échanges intimes alors que le patient ou la patiente a un cancer ou peut-être même en fin de vie et donc des fois pareil cet imaginaire comme quoi c'est pas possible aussi que ces patientes et patients aient une sexualité alors qu'il y a une maladie et comme tu disais ou la vieillesse mais là en termes de maladie.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu... ce qu'il y a, c'est que c'est, dans le cadre de la maladie et surtout du cancer, c'est un peu y a un double tabou. Hein. Tu as le côté cancer, bah, ça fait tout de suite penser à la mort. Il y a ce côté, ça fait très peur. Or que voilà, les cancers se soignent de mieux en mieux. Le taux de survie augmente de manière significative depuis de nombreuses années. Donc, ce n'est plus du tout le cas en plus. Puis, tu as le deuxième tabou, c'est sexualité. Puis là, tu mets les deux ensemble. Et donc, c'est vrai qu'il y a un truc qui se joue un peu dans l'imaginaire collectif de... ça peut pas exister, enfin, ces deux mots-là peuvent pas aller ensemble, quoi, finalement, cancer et sexualité, non, en fait, non, ça va pas dans le même sens, et pourtant, si, justement, je pense que c'est pendant ces épreuves-là qu'on a terriblement envie d'aller chercher, justement, la vie, hein, clairement, et l'élan, et qu'on a besoin de se sentir proche de l'autre aussi, ou pas, hein, mais vraiment, ou d'une manière différente aussi, mais il n'y a pas d'incompatibilité. Et je pensais à une croyance aussi en t'écoutant, que je retrouve parfois chez les patientes, les patientes célibataires qui traversent comme ça, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins, on peut aussi traverser ces épreuves en étant seule, en n'étant pas en couple. Et il y a souvent alors cette crainte aussi de ne pas pouvoir revivre d'histoire de couple par la suite, parce que il y a cette épreuve à un moment donné qui s'est passée dans leur parcours. Donc ça, c'est des croyances qui reviennent beaucoup, or que c'est tout à fait possible, effectivement.
C'est possible, mais ça joue évidemment sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur l'image de soi. Donc, et comme tu dis aussi, parce qu'on parle souvent de la sexualité à deux, hein, et c'est aussi notre tort à nous, mais comme quoi, déjà seul, on peut avoir une sexualité, et en plus, quand il y a un cancer, est-ce que c'est possible aussi de continuer à trouver l'amour quand on a un cancer, quand on est passé par là, quand on n'a pas le même corps? Il n'y a pas assez de représentations et de témoignages aussi, je trouve, là-dessus. Et il y a une autre croyance, on ne l'a pas abordée non plus, et je pense que c'est intéressant, parce que aussi dans cet imaginaire où le cancer du sein, ça touche plutôt les femmes à 50 ans et plus. Celles pour qui ça touche à la trentaine, et qui finalement, il y a cette question aussi, est-ce que je peux devenir maman à la suite d'un cancer du sein? Est-ce que je peux être encore maman ou est-ce que c'est foutu?
Alors, de nouveau, c'est probablement un avis médical de première ligne qui doit être sollicité. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas médecin, mais non, c'est vrai que... on peut temporiser en tout cas ce genre de crainte, puisque souvent ce qu'on peut proposer en tout cas en Belgique, chez nous, c'est quand les patientes qui n'ont pas encore eu d'enfant et qui potentiellement ont un désir d'enfant pour la suite, on peut proposer de congé des ovocytes en fait, pour pouvoir envisager plus sereinement en tout cas une potentielle future grossesse après les traitements.
C'est possible. Et même d'envisager, même sinon aussi l'adoption, enfin, on peut être aussi mère de plein de façons. Donc il y a des ressources en tout cas et des options.
Oui, c'est clairement, on n'est pas du tout sur sur noir ou blanc, oui ou non. Il y a des possibilités et ça veut simplement dire que peut-être ce sera peut-être un peu plus compliqué ou peut-être moins rapide ou peut-être moins comme on l'envisageait, mais il y a des possibilités qui existent.
Si. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent et plutôt celles qui traversent ou ont traversé le cancer du sein vis-à-vis de l'intimité?
Prenez le temps, effectivement, première chose. Prenez le temps de se redécouvrir, de s'apprivoiser et puis de réapprivoiser la relation à deux. Je pense que ça c'est important, et puis comme on est en octobre rose, testez-vous, faites-vous dépister. Moi j'ai 40 ans cette année, je vais faire ma première mammo dans 2 semaines, donc voilà, c'est important aussi
de s'auto-palper tous les trimestres après les règles, de pouvoir tester ça aussi, venir sentir aussi, hein, c'est un moment aussi, un rendez-vous à soi finalement. Et à faire à, alors j'allais dire à n'importe quel âge, oui, mais enfin, on peut commencer déjà, moi, voilà, à 30 ans, on m'a déjà dit, il faut s'autopalper. Donc, ok, je m'y mets seulement.
De nouveau, c'est une espèce de routine un peu de soi à soi, quoi, qu'il faut prendre le temps d'instaurer.
Hein. Oui, totalement. Eh bien, super, merci beaucoup, Marie. Je mettrai aussi dans les notes de l'épisode les podcasts sur la communication pour les personnes qui, justement, se disent « comment partager avec mon partenaire ou ma partenaire Comme ça, vous aurez des ressources supplémentaires. Marie, merci beaucoup pour ton temps et ce que tu nous as transmis.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.